efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous venez de l'entendre, hein, quelque chose a changé. C'est bien Priorité Santé que vous retrouvez, mais sur un air différent. Alors que vous découvrez ce nouveau générique qui va désormais nous accompagner chaque jour, nous voulions nous arrêter et regarder en arrière. Dès demain, nous repartirons à la découverte du corps, de ses petits tracas et gros soucis. Nous retrouverons les meilleurs spécialistes francophones pour décrypter prise en charge, diagnostic et contre-indications. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons prendre le temps de regarder, oui, de regarder dans le rétroviseur de Priorité Santé, sans trop de nostalgie, sans tomber non plus dans l'autopromotion, juste pour comprendre pourquoi, lorsque chaque jour on reçoit dans ce studio médecins et professeurs, infirmières, patients, sages-femmes, chercheurs, on sait que celles et ceux qui nous écoutent comptent sur nous. Cette histoire, ce lien avec les auditeurs, il ne s'est pas fait en un jour, c'est un bien qui se transmet depuis maintenant 40 ans.
Bonjour, bonsoir, quel que soit votre continent.
Priorité Santé, c'est une longue histoire, hein, une création de Colette Berthoud, disparue fin 2014. Entre 2013 et 2017, une autre voix vous accompagne, celle de Claire Hédon. Bonjour à tous. 40 années de Pont Nord-Sud et toujours un même but, faire de la prévention auprès du grand public, l'informer sur ses droits, sur les traitements, sur les moyens d'y accéder surtout. Alors pendant quelques 47 minutes, nous allons les passer ensemble et désormais sans pause d'information, nous avons choisi de donner la parole à celles et ceux qui font Priorité Santé derrière ce micro, également au téléphone avec nous, nos invités, vous, auditeurs, à qui nous avons demandé qu'est-ce que l'émission vous a apporté. Premier à répondre à cette question, c'est vous, professeur Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez un centre médical dédié à la médecine des voyages. Après avoir été chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé, près de Paris, dont vous restez d'ailleurs consultant. Pour entrer dans le vif du sujet, professeur Christophe Rapp, ce qui vous tient à cœur, c'est bien la diffusion, hein, de l'information, où vous soyez auprès de tous les auditoires, une véritable prévention, surtout à destination des pays du Sud.
Alors en effet, pour les professionnels de santé qui s'intéressent à la santé internationale, une émission comme Priorité Santé, c'est pour nous une référence en termes de sensibilisation et de possibilité de porter des messages. Et je crois qu'il faut quand même rendre hommage aux équipes qui ont porté l'émission. Et le succès de l'émission pour nous, les professionnels de la santé, est lié à deux choses. Premièrement, la qualité des équipes et des journalistes qui portent les messages. Et deuxièmement, le format interactif de l'émission, qui est un peu original et qui permet à la fois d'interfacer des professionnels de santé du Nord avec ceux du Sud, mais également de prendre en compte les auditeurs, les usagers. Et ça, cette participation des communautés, quelque chose de classique maintenant en Europe, est devenu indispensable en Afrique si on veut progresser dans les méthodes de prévention. Donc je crois que c'est vraiment l'atout fort de l'émission.
Quand on parle directement aux gens, ça change tout, ça change les choses.
C'est indispensable parce qu'on ne peut pas faire de grands programmes de santé publique sans avoir l'acceptation, la perception. Et en Afrique, on appelle ça de l'anthropologie. L'épidémie de la maladie à virus Ebola nous a enseigné ça. Un exemple simple, c'est par exemple la mise en place des rites funéraires sécurisés qui ont amélioré, bien sûr, la prévention.
On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Vous restez avec nous, hein, tout au long de cette émission, professeur Christophe Rapp. On va maintenant retrouver un autre habitué de Priorité Santé en ligne de Dakar. C'est le docteur Massamba Sassoun Diop. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal, médecin urgentiste aussi au SAMU de l'Essonne en région parisienne. Docteur Massamba Sassoun Diop, votre première intervention dans l'émission dans Priorité Santé, ça remonte à quand?
C'était avec Madame Berthoud, et donc je pense à quasiment une vingtaine d'années.
Vous étiez jeune médecin alors. Qu'est-ce que ça faisait à l'époque d'intervenir dans Priorité Santé?
Mais je crois qu'effectivement, c'était cette particularité de pouvoir, parce que la radio est quand même un outil qui est très démocratisée, et particulièrement aussi dans les pays du Sud, et du coup de pouvoir vraiment aller à l'auditeur qui est un petit peu partout réparti dans ces pays, et de pouvoir leur donner, vous savez, avec Internet aujourd'hui, avec toutes ces informations extrêmement variées dans lesquelles il faut faire un tri, et où on a quelquefois tellement de mauvaises et fausses informations, c'est vraiment important de pouvoir donner le vrai, le bon message, celui qui est le message scientifique, mais de façon aussi très accessible. Et ça, c'est une des particularités que Priorité Santé a permis. Et c'est vrai que c'est le ressenti quand on discute avec les auditeurs et quand on les croise, c'est vraiment le ressenti qu'on a.
Elle est touchée jusque chez eux avec forcément en toutes ces années des temps forts, plusieurs décennies écoulées, des temps forts dans le domaine de la santé, les maladies dont on parle régulièrement, souvent et pour cause, hein, le sida, on parle de l'accès au traitement, prévention du paludisme, la prise en charge de la drépanocytose. Et puis donc, vous le disiez tout à l'heure, professeur Rapp, ça date de 2014, Ebola, la flambée de fièvre qui a affecté l'Afrique de l'Ouest, principalement Guinée, Libéria, Sierra Leone. À ce moment-là, professeur Christophe Rapp, double approche, hein, il faut à la fois prévenir, toucher les auditeurs qui sont concernés, mais aussi tous ceux autour qui s'inquiètent de ce qui est en train de se passer, et puis en même temps, il y a l'action de terrain.
Alors en effet, la problématique d'une épidémie d'ampleur internationale avec une maladie nouvelle et des complexités de prise en charge dans un système de santé extrêmement fragile comme celui de la Guinée, ont justifié plusieurs approches en fait conjointes, et notamment celui de discuter avec les communautés pour faire accepter les mesures d'isolement des patients, ce qui était compliqué de les faire venir dans des centres de traitement au départ de la maladie où on ne disposait pas de traitement efficace avec un taux de décès élevé, et puis également leur faire comprendre l'intérêt du dépistage autour du cas, d'aller dans les familles, dans les communautés, surveiller les contacts des cas malades pour essayer d'endiguer l'épidémie. Donc ça repose effectivement sur une composante sociale et sur une composante anthropologique qui a dû être mise en place de façon extrêmement rapide et qui devra être réfléchie lors de la prochaine épidémie.
On en a d'ailleurs tiré des modèles, hein, de cette approche, justement pour prévenir d'autres épidémies. On l'a vu par exemple à l'œuvre récemment lors de la flambée de peste à Madagascar. Ça veut dire que ces expériences de terrain, on en tire véritablement des enseignements très utiles.
Alors en effet, il faut tirer les enseignements de chaque épidémie. C'est pas toujours très simple, hein, parce qu'en intercrise, les États sont déjà confrontés à la prise en charge des grandes endémies, à la couverture sanitaire universelle. Il y a de nombreux objectifs et la gestion des épidémies est quelque chose de complexe, mais ça doit être anticipé. Et il y a actuellement, dans le cadre de la francophonie, un certain nombre de projets pilotes ou de projets institutionnels avec la Guinée pour renforcer les capacités de lutte du pays face à une éventuelle nouvelle épidémie.
Alors Ebola 2014, docteur Massamba Sassoun Diop, médecin urgentiste, hein, directement impliqué là aussi. Et à Dakar, à ce moment-là, vous aviez observé une véritable prise de conscience.
Oui, alors en plus, nous étions aussi en Guinée. Nous avions une équipe sur la Guinée constamment. Et c'est vrai que je pense vraiment que la radio, pour ça, a permis de transmettre ces informations-là. Et particulièrement, nous, on a eu la... aussi bien par rapport au problème d'Ebola, parce que les gens croyaient qu'ils allaient à tout moment être contaminés dans n'importe quelle condition. Et tout juste, ils osaient croiser des personnes. C'était vraiment toute personne qui venait des zones, des pays concernés. C'était presque la panique pour certains. Je ne parle même pas des pays les plus développés. Mais d'autre part, on a eu des effets secondaires, si j'ose dire. C'est que grâce à l'information par rapport à ce qu'il fallait faire sur le plan, de se laver les mains, de faire attention sur la transmission.
Des règles d'hygiène de base.
On a eu quelque chose de complètement particulier qui était qu'on a eu une chute vertigineuse de toutes les pathologies simples infectieuses pendant.
Docteur Massamba Sassoun Diop, rapprochez-vous, je ne sais pas si c'est un problème de ligne ou si c'est un problème de téléphone. Donc sur une réduction drastique de toutes les contaminations, oui, vous nous entendez ?
Oui, c'est ça.
De maladies infectieuses.
Exactement, c'est-à-dire qu'on a eu une chute mais qui était de quasiment de 60%, de toutes les pathologies classiques infectieuses de d'hiver, entre guillemets, puis ensuite de printemps, avec les problèmes que ce soit rhinopharyngite, que ce soit ensuite d'asthme secondaire ou d'autres types de pathologies comme les gastro-entérites, du fait simplement que les gens appliquaient les mesures d'hygiène dans la crainte d'Ebola. Donc ça, c'est juste anecdotique, mais c'est quand même intéressant de voir l'efficacité que peut avoir sur l'ensemble des pathologies simples infectieuses, le seul fait d'être plus propre.
Anecdotique, mais tout de même, avec cette anecdote entre guillemets, professeur Christophe Rapp, on voit bien le rôle essentiel de la prévention à tous les niveaux. Simplement, se laver les mains, hein, ces règles qu'on voit d'ailleurs placardées un petit peu partout dans les services publics au moment de l'épidémie de grippe, les gens oublient que de simples règles qui ne coûtent rien font gagner des millions, des milliards au système de santé et surtout de vie humaine.
Alors, c'est tout à fait exact, hein, le lavage des mains, l'hygiène de base, hein, est une mesure de santé publique qui a un impact extrêmement fort, hein, et en Afrique subsaharienne, vous savez que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement n'est pas encore réglé, et qu'un certain nombre de personnes, et quand je dis un certain nombre, c'est des millions, hein, n'ont pas accès à l'eau potable, et notamment dans les écoles ou dans les structures de soins. Il y a des enquêtes qui montrent que globalement, un quart des écoles ou un quart des hôpitaux n'ont pas un accès encore à l'eau potable. Donc là, c'est une mesure qui devrait être mise en œuvre, mais qui est extrêmement complexe puisqu'elle est structurelle. Elle repose sur des financements et des travaux qui doivent être réalisés par les États. Mais le poids, l'impact en santé publique du lavage des mains dans la réduction des maladies du péril fécal, en particulier les diarrhées de l'enfant, est quelque chose de majeur.
Alors, on va vous retrouver dans quelques instants, messieurs, le temps de donner la parole à un premier auditeur de Priorité Santé. Là encore, pour insister, hein, sur le rôle de cette information en santé publique, pour aussi combattre certaines idées reçues. C'est le cas, hein, beaucoup de fausses croyances sur des maladies en particulier, comme par exemple ce dont va nous parler tout de suite Basile Félicien. Il est en ligne du Congo, de Pointe-Noire. Basile Félicien, bonjour.
Bonjour RFI.
Alors on vous écoute, pourquoi teniez-vous à témoigner aujourd'hui dans Priorité Santé?
Oui, mais parce que l'émission Priorité Santé de RFI nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur certaines maladies peu connues ou sur lesquelles nous sommes mal renseignés sur les symptômes et de son évolution. Par exemple, moi au niveau de mon établissement, j'ai une élève.
Vous êtes dans l'enseignement, Basile Félicien.
Ouais, je suis à Pointe-Noire, directeur. Et donc, je disais que nous avons l'établissement une élève qui souffre de l'épilepsie. Elle fasse des crises, plusieurs crises, parfois dans la journée. Écoutons RFI, on a été suffisamment informés sur la maladie, par exemple, qu'elle n'est pas contagieuse. Alors qu'elle, déjà, elle était rejetée par ses collègues, même par le personnel enseignant, parce que déjà, l'information qui court en Afrique, à Pointe-Noire notamment, que l'épilepsie est contagieuse. Et donc, lorsqu'on la petite bavait, personne ne voulait toucher à elle. Et RFI nous a donné suffisamment d'informations là-dessus. J'ai rappelé les parents, j'ai convoqué les parents, je leur ai donné les conseils que RFI a donné par l'intermédiaire de l'émission Priorité Santé. Les parents sont allés voir un médecin, et la petite prend un cachet par jour, et depuis une année et demie, elle ne fait plus de crise, et grâce à Priorité Santé.
Les autres élèves avaient peur de cet enfant, justement, après l'émission, elle a pu réintégrer la classe, elle a pu retourner à l'école?
Sans problème, et son travail scolaire est irréprochable. Elle a de très très bonnes notes, c'est même la première de la classe. Eh ben, grâce à RFI, madame.
Ben c'est un beau compliment.
Donc,
c'est un beau compliment
pour
les équipes précédentes qui animaient l'émission et qui ont permis justement de diffuser, hein, parce que c'était il y a déjà quelques temps, qui ont déjà permis de diffuser tous ces messages de prévention. C'est vrai que sur l'épilepsie, sur un certain nombre de pathologies mentales, énormément de fausses croyances liées notamment à des sentiments que ces personnes sont habitées par des esprits, par exemple, des choses qui font peur dans certaines communautés. Merci en tout cas, merci infiniment Basile Félicien pour ce témoignage. Je rappelle que vous étiez en ligne de Pointe-Noire du Congo. Ces troubles neurologiques, beaucoup à faire, hein, pour combattre tous les préjugés. Également arrêter certains traitements inadapté, toutes ces considérations en termes aussi de stigmatisation. Professeur Christophe Prapp, justement, lutter contre la stigmatisation, on le disait tout à l'heure, aller au cœur des communautés, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur.
Oui, c'est tout à fait fondamental. Et l'auditeur là nous trace quelque chose d'important, hein, cette notion de discrimination, de stigmatisation, hein, en Afrique subsaharienne. Une pathologie méconnue va tout de suite entraîner une discussion d'un problème mystique et entraîner la consultation vers un tradit praticien, ce qui pose de nombreux problèmes, bien sûr, par rapport à la médecine classique. Et il faut effectivement sensibiliser les populations sur les symptômes des maladies pour lutter contre ce sentiment et sentiment, notamment on va sans doute aborder avec les collègues la maladie mentale, hein, la maladie mentale qui est un des nouveaux objectifs du ministère pour le développement de l'OMS, hein, qui est une maladie négligée en Afrique subsaharienne avec un taux de psychiatres par habitant qui est extrêmement faible. Et donc il y a une stigmatisation très très forte, hein, sur la maladie mentale.
Vous n'avez pas eu le conducteur de l'émission comme on dit, mais oui, effectivement, on va en parler tout de suite puisque en ligne avec nous c'est le docteur Ali Ndou Kanji, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre au centre de neuropsychopathologie de l'université de Kinshasa. Docteur Ndou Kanji, suite à une intervention dans l'émission, justement, l'un de ces ponts nord-sud, c'était en 2015. Vous êtes venu travailler en France. Dites-nous comment ça s'est passé.
Je suis venu travailler parce que je devais rencontrer mon promoteur de thèse, le professeur Bruno Palissard. Et quand je suis arrivé après notre travail, il m'a recommandé d'aller effectuer un stage dans les consultations transculturelles chez le professeur Marie-Rose Moreau. Et quand je suis arrivé, il s'est fait que j'avais déjà intervenu dans une des émissions, il était l'invité, ce qui m'a facilité, en fait, derrière l'émission des priorités santé, l'accueil dans les services de Marie-Rose Moreau. Et là, j'ai effectué un stage sur les concessions transculturelles. J'ai participé à toutes les activités qu'il était en train d'organiser. Aussi et surtout le fait que tous les projets des articles que j'avais, elle a eu à intervenir, à corriger, à discuter avec, ce qui m'a facilité aussi pour que ces articles soient publiés.
Parce qu'il y avait aussi cette connaissance des deux côtés, hein, du nord, du sud. Docteur Ali Ndou Kanji, quand vous nous parlez justement de transculturel, vous avez pu apprécier ces différents modes d'approche dans votre spécialité, la psychiatrie, la neuropsychiatrie, avec aussi les enfants, pédopsychiatrie, avec énormément de travail à faire justement en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest.
Effectivement, parce que nous, c'est qui sur ce dossier vraiment des culturels. Et dans notre institution, nous avons eu le temps, surtout avec les enfants, qui présentent pas toujours des problèmes de santé mentale, mais souvent des éléments en rapport avec leur psychopathologie et égard à leur passé, à leurs interactions avec les parents et les membres de la famille. Et chez nous, nous appelons ça la psychopalabre, comme dans nos coutumes, lorsqu'il y a un problème au village, le plus souvent, les sages du village se réunissent pour pouvoir parler de ce problème. Et c'est ainsi que quand je suis arrivé dans la structure de Marie-Rose, j'ai beaucoup apprécié parce que c'était un peu le même type d'intervention, mais là, c'était encore bien codifié. Et la façon dont la parole s'était octroyée parmi les membres de l'équipe, et là, j'ai senti l'importance même de l'équipe multidisciplinaire qui est quasi inexistante chez nous, où chacun travaille dans son coin.
Et vous avez pu faire un lien entre ces psychothérapies et la psychopalabre, comme vous le dites ?
Oui, absolument, absolument. C'était vraiment comprendre la psychopathologie de ce que l'enfant présente et donner le sens par rapport aux éléments culturels. Tenez, par exemple, vous recevez une adolescente qui a été victime de violences sexuelles et pour elle, dans la coutume, il y a des rituels qui doivent être faits. Mais quand elle présente des troubles, on peut facilement poser le diagnostic de la dépression, on l'amène à l'hôpital, mais c'est difficile qu'on puisse intégrer ces aspects. Mais cela m'a permis d'asseoir l'approche biopsychosociale pour dire qu'il n'y a pas que l'aspect biologique dans la prise en charge, c'est-à-dire l'intervention médicamenteuse, mais il y a aussi et surtout l'aspect psychosocial en intégrant. Pour elle, la victime, elle s'est dit, elle doit passer par les rituels. Aussi longtemps qu'elle ne sera pas passée par ces rituels, elle aura l'impression qu'elle n'a jamais été suivi et n'est pas encore guéri. Mais une fois passé dans les rituels, vous voyez que tout change.
rituels de parole notamment. Professeur Christophe Rapp, vous enseignez à l'université Senghor d'Alexandrie dans le cadre de la francophonie, vous rentrez d'ailleurs d'Égypte. Ces regards croisés nord-sud dans la formation des personnels de santé, on retrouve justement ces mêmes préoccupations, l'apport des uns qui ne nie pas pour autant la culture des autres.
Oui, tout à fait fondamental. C'est un autre aspect fondamental de l'émission Priorité Santé. C'est la possibilité de tisser des liens de formation ou de recherche avec les pays du Sud et justement d'aider les collègues à acquérir des bases fondamentales. Mais ensuite, attention justement à pas faire de copier-coller entre les pratiques européennes et les pratiques en Afrique subsaharienne. Il y a toute une intégration de composantes anthropologiques qui sont fondamentales si on veut mettre en œuvre les outils de prévention. Et donc cet échange est très important.
Parce que c'est une cohabitation. Tout à l'heure, vous parliez rapidement des tradipraticiens. Certes, il y a certaines pratiques qui peuvent des fois poser problème pour la médecine que l'on dit moderne. Mais malgré tout, il y a une intégration des deux apports pour l'approche du patient parce qu'on ne peut pas d'un trait de crayon rayer ce qui s'est fait auparavant.
Tout à fait, on a le même problème en Europe, les thérapeutiques alternatives, on ne peut pas les rayer d'un revers de main, on doit échanger, et notamment tout ce qui est pharmacopée naturelle, on sait que les traitements du paludisme sont en réalité, le Qingaoshu, c'est une herbe chinoise, donc il y a beaucoup de principes actifs et qui peuvent venir de médecine traditionnelle, donc il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et échanger avec ces tradipraticiens.
Docteur Aline Nukonji, dernière question, est-ce que vous avez l'impression qu'avec les années, qu'avec la pratique, le regard a changé en Afrique, le regard sur justement la maladie mentale, ces pathologies mentales que vous prenez en charge?
Petit à petit, ça marche. Mais surtout en rapport avec les pathologies des enfants et des adolescents, ça pose énormément de problèmes parce que imaginez-vous un si grand pays où la population est à majorité jeune, mais il n'y a pas assez de pédopsychiatres, quasi inexistant. Ce qui fait que les enfants, chez nous particulièrement, l'enfant n'existe pas. C'est-à-dire qu'il suffit de voir, par exemple, les enfants qui peuvent émigrer, ils n'existent même pas, ils n'ont même pas de certificat de naissance. C'est ainsi que vous allez voir le plus souvent les enfants qui ont des jugements supplétifs. Et ça pose lorsqu'ils posent des problèmes. Nous avons eu à faire un travail sur les enfants autistes. Le gap entre lorsque le parent identifie les premières plaintes et lorsqu'on pose un signe est de 8 ans. C'est-à-dire, ils pensent que les troubles que l'enfant présente vont passer avec la croissance. Mais se rendre compte que surtout à l'âge scolaire, quand l'enfant ne s'adapte pas, c'est à ce moment-là qu'on l'amène à l'hôpital. Et le plus souvent, ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent amener l'enfant. Ils commencent d'abord par les oreillistes parce qu'ils ont l'impression que comme l'enfant ne parle pas, il n'entend pas. Mais quand là-bas, on trouve que l'audiométrie est normale, parfois les oreillistes se sont désemparés et l'enfant attend jusqu'à ce que par hasard, il peut rencontrer un pédopsychiatre qui pourra soigner l'enfant. Les parents sont très réticents, ils évitent un peu de consultation, parce que le plus souvent, ils ont un sentiment de culpabilité. Ils ont l'impression que si l'enfant est tel, c'est à cause d'eux. Et c'est ainsi qu'il y a une déperdition. Beaucoup d'enfants qui devaient être vus dans les structures sanitaires, ils sont déviés vers les églises. Et là, il y a des églises de réveil où les pasteurs se disent, promettent bien des choses de guérison. Et à ce moment-là, l'enfant est pris en charge tardivement. Là, ça pose problème par rapport à la récupération des troubles que peuvent présenter les enfants et les adolescents.
Beaucoup de travail à faire donc dans le domaine de la pédopsychiatrie. Merci beaucoup, docteur Ali Nukendi. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre au Centre de neuropsychopathologie de l'Université de Kinshasa. Et vous restez en ligne avec nous, docteur Massamba Sassou Ndiop, avec nous en studio, professeur Christophe Rapp. On va se retrouver dans quelques petites minutes. On va encore voyager, on va aller à Kinshasa, retourner aussi à Dakar. Avant cela, quelques minutes d'énergie concentrée avec James Brown, 1964. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice.
do you no harm, and I feel nice. That sugar is mine. I feel nice. That sugar is mine. I feel nice, sugar and spice. So nice that I got it here. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that.
James Brown, on se retrouve dans Priorité Santé, toujours en ligne de Dakar. Le docteur Massamba Sassoune Diop est avec nous, médecin urgentiste, et avec nous en studio, professeur Christophe Rapp, directeur d'un centre médical dédié à la médecine des voyages, après avoir dirigé le service des maladies infectieuses de l'hôpital militaire Bégin de Saint-Mandé, près de Paris. Professeur Christophe Rapp, des médecins africains, on les a entendus, quelques-uns d'entre eux, ceux qui interviennent dans l'émission, impliqués indirectement pour la santé de leurs concitoyens. Mais vous, vous regrettez aussi la tendance à la fuite des cerveaux.
Alors en effet, hein, la formation des élites dans les différentes universités, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même à l'université Saint-Gore à Alexandrie, nous montre qu'un certain nombre d'élites ne regagnent pas les institutions de leur pays et sont souvent, ce qui est pas mal dans les organisations non gouvernementales, mais il y a une vraie réflexion qui est déjà ancienne sur le maintien des capacités de réponse sanitaire des pays en maintenant des cadres de santé. Alors c'est toute la mission de la formation, mais il y a également une dimension politique des États qui nous échappe.
On le disait tout à l'heure, du côté de la psychiatrie par exemple, mais aussi de beaucoup de grandes spécialités, quand on demande aux médecins combien d'ophtalmo, combien d'ORL, combien de psychiatres, combien de cardiologues, très peu à chaque fois par pays, moins de 10 le plus souvent, il y a un énorme travail de ce côté de ces spécialités.
Alors il y a un énorme travail globalement et notamment dans un domaine dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler ce matin, c'est les maladies non transmissibles. On fait beaucoup d'émissions sur les maladies transmissibles, les grandes endémies, paludisme, tuberculose, VIH. Mais là, la problématique d'aujourd'hui nous montre que les grandes maladies, ça va être la maladie mentale, le diabète, le cardiovasculaire, l'accident de la voie publique. Toutes ces priorités de demain doivent générer la formation de nouveaux professionnels de santé en Afrique.
On va en parler tout à l'heure, hein. Énorme travail, notamment aussi en ce qui concerne l'information d'un autre public particulier. Tout à l'heure, on parlait des enfants, des femmes aussi, avec encore trop souvent des hommes, hein, qui parlent à leur place pour expliquer ce dont elles souffrent, y compris lorsque l'on touche à l'intimité, même pour la gynécologie. C'est d'ailleurs ce qu'on constate, hein, avec nos auditeurs, et on appelle souvent nos auditrices à se manifester davantage. Qui sait mieux que nous-mêmes ce que nous dit notre corps? Alors mesdames, appelez-nous et on donne la parole à une femme médecin tout de suite, c'est le docteur Gertrude Louyéyé. Bonjour Gertrude.
Bonjour Caroline.
Vous êtes radiologue, sénologue à l'hôpital général de Kinshasa en RDC, hein, c'est le plus grand hôpital public du pays. Docteur Louyéyé, c'est vous qui, la première, avez contacté l'équipe de Priorité Santé en 2014. Alors pourquoi cette démarche de votre part?
Merci. En fait, je l'ai fait parce que comme je suis beaucoup cette émission, comme la majorité, il y a beaucoup de Congolais qui suivent cette émission, et donc j'avais suivi sur antenne une les deux auditrices que vous avez appelées, qui a parlé du cancer de sein, mais j'ai compris qu'elle connaissait rien en fait sur le cancer de sein, l'état du cancer de sein dans notre pays. Et donc je suis intervenue pour dire qu'il y a quand même des gens qui sont un peu plus outillés pour parler de cela. Voilà comment j'ai su rentrer en contact avec RFI.
Alors en insistant notamment, docteur Louyéyé, sur les femmes qui vivent loin des villes, des grands centres de soins, c'est d'ailleurs pour elles que vous avez créé une organisation, l'ONG Repos, qui lutte justement contre ce cancer féminin.
Oui, absolument. Surtout que, comme je l'avais dit la dernière fois, mais malheureusement ça continue encore, même s'il y a quand même des améliorations, le grand problème, c'est l'absence même de connaissance de cette maladie de cancer de sein. Ça signifie que toutes ces femmes qui sont dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, lorsqu'elles ont une boule dans leur sein, la première des choses qui arrivent en tête, c'est ce qu'on appelle chez nous ici l'embasu, c'est-à-dire une sorte de mauvais sort qu'on vous a jeté. Et donc la priorité, ce sera d'aller plutôt voir les tradis modernes pour qu'on puisse faire des scarifications et tout ce que vous voulez. Et donc elles viennent à l'hôpital très tard, lorsque la masse a déjà dégénéré, que vraiment vous êtes à l'étape d'un carcinome avec une plaie qui sent mauvais. Et donc c'est à cette étape-là qu'elles viennent à l'hôpital. C'est ainsi que, comme nous avons constaté cela, nous avons, avec des amis, créé Repos pour justement aller vers les femmes pour leur parler du cancer, leur dire que le cancer, malheureusement, quand la boule commence, elle fait pas mal, mais vous pouvez pas avoir des boules dans votre sein. Voilà comment nous avons débuté.
Et justement, au-delà justement de la pathologie du traitement, il y a aussi toute la question de l'image, image corporelle. Et docteur Gertrude Louyéyé, la lutte contre la stigmatisation particulièrement importante pour cette maladie.
Absolument, parce que le problème, lorsque vous recevez, parce qu'on sait que dans le cas du cancer des femmes, malheureusement dans la race noire, c'est un cancer jeune. Et donc, ces femmes qui viennent nous voir à l'hôpital sont encore des femmes qui sont en période d'activité génitale. Et donc, quand vous posez les questions de mastectomie, c'est-à-dire l'ablation du sein, enlever le sein, la première réponse qu'elle vous donne, mais et mon mari alors, il va me quitter. Et donc, vous devez absolument faire comprendre à la femme et même au couple que le fait d'enlever le sein ne veut pas vous priver de votre beauté. Si vous avez encore besoin d'enfants, vous pouvez en faire. En fait, c'est vraiment un grand problème de stigmatisation parce qu'elles sont abandonnées par les maris et même les familles les abandonnent. Quand elles viennent à l'hôpital à un stade où la plaie sent mauvais, les familles les abandonnent. Et donc, nous devons absolument, et c'est ce que nous faisons depuis des années, lutter contre cela. Et sur le plan national, on sent quand même que ça commence à porter de fruits parce que de plus en plus d'organisations se sont créées, des professionnels de santé ou même pas, hein, qui nous ont suivis, heureusement sur RFI, et de plus en plus dans les écoles, dans les organisations des femmes, il y a ces réunions-là qui s'étreignent pour parler du cancer de sein. Malheureusement, je sais que je regrette un peu, c'est que les gens partent seulement lorsque le mois de mars arrive, et puis quand le mois de mars est passé, elles se taisent. Mais nous, en tant qu'ONG, nous continuons. Tenez par exemple, la semaine passée, j'étais en conférence avec des filles de 16 à 18 ans dans une école. Et j'ai parlé du cancer. À la fin, il y a une petite 16 ans qui me pose la question. Elle dit « Mais docteur, vous avez parlé de facteurs de risque. Moi, ma maman, elle est morte l'année passée du cancer de sein. Et pourtant, les docteurs avaient dit que c'était un cancer bénin. Ma grand-mère est aussi morte de cancer de sein. Et la grande sœur de ma mère est cancer de sein. » Qu'est-ce que ça veut dire un cancer bénin, vous voyez? Donc il y a encore du travail à faire sur le terrain, et donc c'est à ça que nous nous attelons.
Merci beaucoup docteur Gertrude Louyéyé. Je rappelle que vous êtes radiologue, sénologue à l'hôpital général de Kinshasa en République démocratique du Congo. Docteur Massamba Sassoun Diop, on vous retrouve en ligne de Dakar. Le médecin que vous êtes reste un auditeur en quête d'informations sur les pratiques de ses confrères, justement énormément de spécialités derrière ce micro. On peut encore apprendre à tout âge, même quand on est un médecin aguerri, on apprend toujours de ses confrères.
Oui, justement, ce que je trouve très intéressant, et si vous creusez un petit peu, vous allez vous apercevoir que vous avez un nombre très important d'auditeurs, en fait, médecins. Parce qu'en fait, on ne maîtrise pas l'ensemble de toutes les spécialités et encore moins les détails. Et c'est vrai que les collègues ou de leur parce que c'est ça qui est important.
Docteur Massamba Sassoun Diop, la ligne se détériore. Ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va raccrocher et on va vous rappeler ultérieurement. On va reparler justement de cette mise en commun des différentes spécialités médicales. On va partir tout de suite pour Conakry, donner la parole à un autre auditeur de Priorité Santé. Cet auditeur, c'est Brice. Bonjour Brice.
Bonjour Caroline, bonjour RFI.
On vous écoute Brice.
Oui, ben bon, le thème d'aujourd'hui, ça m'a vraiment pris au cœur parce que j'ai eu beaucoup d'expérience avec Priorité Santé. Donc, depuis que j'ai découvert l'émission, je n'ai plus, comme je vous ai expliqué dans le message, je n'ai plus de musique MP3 dans mon téléphone, tout en étant un étudiant en médecine. Donc, j'ai remplacé tout ça par vos enregistrements.
Et vous les réécoutez, vous les réécoutez régulièrement alors?
Ben ouais, je les écoute régulièrement et puis voilà, les amis ne touchent pas mon téléphone parce qu'il n'y a rien dedans, il n'y a que Priorité Santé qui est important dans ce téléphone.
Vous savez vers quelle spécialité vous voulez vous orienter justement? Est-ce qu'en écoutant ça vous a attiré vers une spécialité plutôt qu'une autre?
Ouais, ben bon, ça m'a orienté un tout petit peu vers la cardiologie. La cardiologie, ben bon, comme je suis encore en route, je suis en cinquième année, donc voilà, j'espère bien que je vais finir par obtenir ce que je voulais. Et puis voilà, j'ai fait de cette émission un dictionnaire médical personnel, quoi. Voilà.
Et quand
j'ai fait de ça un dictionnaire personnel.
Et quand vous aurez terminé votre cursus, vous allez rester exercer à Conakry en Guinée ou vous comptez voir du pays?
Ben bon, je compte me spécialiser d'abord avant de commencer à exercer. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est la spécialisation qui prime. Tout le monde peut être médecin, mais la spécialisation, c'est pas donné à tout le monde.
Donc vous spécialisez. Merci beaucoup et nos encouragements pour la suite de ces études. Brice, excellente journée à Conakry.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors justement, des témoignages qui peuvent donner envie d'aller vers telle ou telle direction, ou voire même ouvrir de nouvelles perspectives. Et c'est ce qui vous est arrivé. Docteur Abdulaziz Kassé, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes chirurgien gynécologue spécialisé en cancérologie. Vous travaillez sur la réparation de l'excision au Sénégal. Et c'est en entendant à l'antenne le chirurgien français, le docteur Pierre Foldès, qui exerce en région parisienne. C'est donc en entendant le docteur Foldès en 2013... que vous vous êtes orienté vers votre spécialité, réparation de l'excision. C'est bien cela, docteur Abdulaziz Kassé?
C'est bien cela, madame.
Alors, est-ce qu'il y a eu une rencontre? Comment s'est passée, justement, cette formation, cette spécialisation très particulière?
Alors, à la suite de cette émission, j'ai contacté le docteur Pierre Foldès, qui m'a invité dans son activité à Paris, dans sa clinique. Et cela m'a permis d'apprendre à réparer les mutilations génitales féminines. Mais secondairement, bien sûr, j'ai invité le docteur Pierre Foldès avec l'aide de Unifam. Et l'objectif numéro un, c'était de former sept chirurgiens des régions à forte prévalence de mutilations génitales féminines. Et ensuite, bien entendu, de les outiller pour leur permettre de pratiquer cette activité dans les régions où on en avait le plus besoin.
Est-ce que vous avez une idée, justement, par ce biais, le nombre de chirurgiens qui ont été formés à ce savoir-faire tout à fait particulier?
Sept chirurgiens sénégalais venant de différentes régions à forte prévalence ont été formés, ont reçu des boîtes de chirurgie et ont reçu les fils de suture qui leur permettaient de pratiquer cette chirurgie.
Parce qu'au-delà de cet acte chirurgical, il y a forcément un message, une volonté pour les droits des femmes et bien sûr pour leur santé aussi bien physique que mentale.
Bien sûr que l'OMS estime à plus de 200 millions de jeunes femmes et filles toujours en vie qui ont été victimes de mutilations génitales féminines pratiquées dans 30 pays africains. Malheureusement, les millions de femmes victimes de l'excision lancent un appel que personne ne semble entendre du fait des troubles de la sexualité liés à cette mutilation. Alors, avec le soutien de Unifam, nous avons formé donc 7 chirurgiens pour une offre de soins dans les zones de forte prévalence. Nous ambitionnons bien sûr d'en former 25 autres.
avec forcément à la clé des centaines, des milliers de femmes qui peuvent être opérées. Et puis parallèlement à votre travail de chirurgien, vous êtes aussi militant, hein, vous avez créé une association qui travaille justement sur toutes les questions de prévention à destination des femmes, mais pas seulement.
Bien sûr, en 1973, à Tambacounda, dans ma région d'origine, j'ai senti la nécessité de sensibiliser les jeunes à la lutte contre le tabagisme parce que cela représentait quand même un gros problème de santé publique. Et depuis lors, j'ai continué cette croisade et ce n'est que quand j'ai rencontré le journaliste Massambamba et Mme Catherine Gueye-Dvorak que nous avons créé d'abord une première coalition des acteurs de la lutte contre le cancer. Puis, nous avons concentré nos énergies sur la prévention. Et dans ce secteur, nous avons ciblé, premièrement, le tabagisme, bien sûr, deuxièmement, la lutte contre le cancer du col de l'utérus, troisièmement, les réparations des mutilations génitales féminines, et bien entendu, globalement, la lutte contre les pour la prévention des risques sanitaires et sociaux, à travers deux axes. Un, le plaidoyer pour un changement de politique en direction, bien entendu, des décideurs. Et deux, la sensibilisation pour un changement de comportement en direction des population générale.
Merci beaucoup, Dr. Abdulaziz Kassé. Je rappelle que vous êtes chirurgien gynécologue spécialisé en cancérologie. Vous travaillez sur la réparation de l'excision au Sénégal. Nous sommes toujours en ligne de Dakar avec le docteur Massamba Sassoun Diop. Tout à l'heure, on parlait, avant que la ligne téléphonique ne se détériore, justement, de ces regards croisés de médecins, de cette mise en commun de l'expertise, d'ailleurs inter-africaine ou nord-sud. C'est vraiment quelque chose qui reste, même quand on a, comme on dit, des années d'expérience, quelque chose de très important, docteur Diop.
Oui, j'espère que là, vous m'entendez bien.
Parfaitement.
C'est net.
C'est net.
Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on écoute un petit peu, on s'aperçoit que le nombre de médecins qui sont donc des auditeurs de votre radio est assez impressionnant. Mais je crois que c'est assez logique, dans la mesure où la médecine, vous, votre émission est très transversale. Et de ce fait, elle traite aussi bien donc de toutes les spécialités cardiovasculaires, neurologiques, maladies infectieuses, psychiatriques, du sport, métabolique et tout. Et donc, ça permet, du fait que vous invitez des experts dans les différents domaines, d'avoir d'une part les recommandations telles qu'elles sont aujourd'hui au niveau international, mais en même temps cette expérience très particulière qui est sur le terrain. Et je crois que c'est pour ça qu'aussi les médecins sont des auditeurs, dans la mesure où ça leur permet d'avoir ces avis très pertinents. Et bien sûr ce retour avec les auditeurs. Mais je pense que c'est cette particularité qui fait que les médecins se sentent concernés par vos émissions.
Merci beaucoup, docteur Massamba Sassoun Diop, d'avoir été avec nous en ligne de Dakar, où je rappelle, vous êtes médecin urgentiste, président de SOS Médecins dans la capitale du Sénégal. Vous parliez justement des maladies métaboliques. Tout à l'heure, le professeur Christophe Frappe avait prononcé le mot « maladie non transmissible ». Le lien est fait avec notre prochain interlocuteur, c'est Stéphane Besançon. Stéphane, bonjour.
Bonjour Caroline.
Un habitué de Priorité Santé, hein, puisque vous signez notre chronique nutrition du lundi. Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Justement, ce sujet de la nutrition abordé chaque semaine, Stéphane Besançon. Et on a vu année après année, non seulement des maladies dont on parle de plus en plus, comme par exemple l'obésité, le diabète, peut-être surtout, des maladies dont il faut de toute façon de plus en plus parler, notamment pour nos auditeurs en Afrique.
Oui, tout à fait. Je pense que là-dessus, on doit vraiment énormément à Priorité Santé depuis des années, parce que maintenant, on en parle, comme dit la Caroline, de plus en plus actuellement. Mais quand à un moment, personne n'en parlait, qu'il y avait un vrai désert, à la fois pour informer les gens et pour que les gens puissent s'intéresser au sujet et poser leurs questions, côté des patients, de la population, et puis côté des médecins, de pouvoir aussi dire qu'il y a des besoins, et ben Priorité Santé, pendant de nombreuses années, était l'émission qui a accepté de mettre cette thématique sur la table, alors qu'ailleurs, elle n'est pas beaucoup mise sur la table. Et on a vu toute l'ampleur que ça prend et l'intérêt des gens pour toutes ces questions aujourd'hui de nutrition, sur le diabète, sur les maladies cardiovasculaires, puisqu'à chaque fois, il y a quand même une demande énorme des auditeurs pour avoir de l'information.
Avec un énorme message de prévention, vous le disiez, hein, une véritable appétence de la part des auditeurs, dès qu'on parle de ce qui se passe dans la cuisine, ce qui se passe dans les assiettes, beaucoup de questions, beaucoup d'idées reçues, et puis aussi des messages à faire passer, on peut le dire, aux politiques. Tout à l'heure, on entendait utiliser le mot de plaidoyer. Il y a vraiment une politique de santé publique qui doit se forger, se constituer en la matière.
Oui, oui, tout à fait. Alors déjà, on parle souvent beaucoup de curatif, donc de parler du préventif, je pense que c'est absolument central d'aller avant la maladie et que les gens puissent savoir comment se protéger. Ça, c'est déjà quelque chose de central. Et effectivement, de parler de ces maladies, ça permet aussi de sensibiliser les politiques pour faire des choix et orienter les politiques de ce côté-là. Donc ça, c'est absolument central aussi. De pouvoir avoir ces deux volets. Et là, de nouveau, l'auditoire de RFI, c'est qu'on arrive à parler à la fois aux gens, aux personnes, et à la fois aux décideurs. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant pour faire avancer les choses sur le terrain, à la fois pour les personnes et pour les politiques qui, à un moment, ont de l'information et se disent « tiens, il faut peut-être qu'on y aille ».
Merci beaucoup Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Quelques secondes pour conclure, professeur Christophe Rapp, insister, hein, c'est peut-être le mot de la fin, sur cette question des maladies non transmissibles, un véritable enjeu de santé demain en Afrique.
Tout à fait, je pense que les exemples là, des collègues sont tout à fait illustratifs hein, de projets pilotes, mais maintenant, en termes de santé publique en Afrique, il faut passer à ce qu'on appelle la large échelle hein, et la couverture sanitaire universelle, l'offre intégrée de soins, la construction d'un parcours de soins du patient. Elle doit intégrer la prévention, elle doit prendre en compte les grandes endémies, mais également toutes ces maladies non transmissibles, dont les composantes environnementales hein, qui sont encore tout à fait négligées.
Et Priorité Santé sera là pour en parler. Merci beaucoup à vous, hein, professeur Christophe Rapp, de vous être rendu disponible ce matin pour cette émission Priorité Santé. Vous nous retrouverez, bien sûr, demain à ce même micro. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise cette émission. C'est tout ça, Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Aujourd'hui, avec nous, Didier Cherouse. Et demain, dans Priorité Santé, on va s'arrêter sur notre cerveau, les réactions, les gestes du quotidien qui en disent long sur l'activité de notre système nerveux. Pour poser vos questions, le numéro de l'émission 33 80 82 75 75. Et pour réécouter Priorité Santé, c'est sur rfi.fr. Priorité Santé, rubrique émission, on se retrouve demain.
C'était Priorité Santé, avec Sounou Assurance qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.